Europe 1, en balade avec Loudoyon, Pascal Clark.
Bonjour à vous, comment va votre dimanche ? Tel que vous ne me voyez pas, je suis complètement à l'est. 20e arrondissement de Paris, dans la longue rue de Bagnolet, devant une salle de concert attachante, qui a connu bien des soirées mémorables. Loudoyon m'a donné rendez-vous devant la Flèche d'Or, comme on revient sur les lieux de sa première fois. C'était en 2012, l'auteur, compositrice, interprète y avait donné son premier concert. Elle venait de sortir son premier album, produit par Étienne Dao. Il s'appelait Places et tout était dit, chercher sa place, ses places. Quand on est la fille de Jane Birkin et de Jacques Doyon, que toute forme d'expression est bonne à prendre. Mannequin, comédienne, chanteuse, dessinatrice, what else? Après trois albums salués et autant de tournées, Loudoyon sort trois titres autoproduits et illustre de ses dessins à l'encre une réédition du livre mythique de Patti Smith, Just Kids. À 38 ans, cherche-t-elle encore sa place? Tiens, je la vois qui arrive, à tout de suite.
Pascal Clark, en balade avec Loudoyon sur Europe 1.
Bonjour Loudoyon.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien.
Ah non, ne dites pas ça de manière automatique, pour de vrai, comment ça va?
Non, ça va bien, bien,
oh,
bien.
Super.
Bien, et encore mieux d'être là, quoi.
Ouais.
D'être là, c'est bien, c'est bien. Je touche les murs d'une vie passée.
À ce moment-là?
Ouais.
Alors on va laisser passer la sirène, hein. Bah, c'est la vie, hein, ambulance, etc.
C'est ça.
Est-ce que ça vous fait du bien d'être dehors d'un seul coup?
Oh, ouais.
Ouais.
Déjà d'être dehors, effectivement, on se rend compte qu'on ne l'est plus du tout, qu'on va d'un point A à un point B, mais l'idée de la flânerie, ce qui me plaît quand même beaucoup, a disparu depuis un an, ça c'est sûr. Et puis de voir de la vie, je veux dire, même là, d'entendre justement un peu d'embouteillage, un peu de tout ça, ça nous rappelle.
On en est à apprécier les embouteillages.
Ouais. Exactement, on en est là.
Alors effectivement, on est un peu cloîtré à l'intérieur chez soi, mais on peut quand même avoir de vos nouvelles régulièrement sur Instagram.
Ouais.
Vous donnez beaucoup, hein ?
Je vous donne beaucoup de nouvelles. Je suis pas sûre qu'on s'en pose tant que ça, mais j'en donne beaucoup. Non, ouais. C'est vrai que c'est un médium qui m'amuse et contrairement à d'autres médiums où on sent qu'on n'est pas de cette génération et qu'on n'arrive pas à rentrer dedans, je suis arrivée voilà, juste à un âge où Instagram, ça va, je comprends. Twitter, pas mon truc. TikTok, je ne sais même pas vraiment le principe. Enfin, donc dernier
vrai,
moment de jeunesse.
Ouais, vous êtes un peu middle-age, vous.
Je suis middle-age. Je suis totalement middle-age. Et c'est vrai que l'idée ressemble peut-être à un mélange de vieilles émissions des années 70 où on s'en foutait un peu et quelque chose de l'ordre du magazine. C'est-à-dire qu'il y a, c'est de l'image, c'est un peu de mouvement, mais ça reste assez peu. C'est pas fiévreux comme Twitter, ça demande pas une énergie délirante comme TikTok, on est entre les deux.
Alors il y a des posts, l'un des derniers posts en date, vous êtes assez toute nue.
Ouais.
Même si on voit pas grand chose.
Mais on voit rien.
On voit rien, mais le fait est. Et c'est quoi l'idée?
C'était quelque chose aussi.
Un clin d'œil.
Non, déjà, c'est une animalité qui me fait rire parce que c'est plutôt animal et effectivement, je ressemble à. Aux cousins chose assez souvent le matin. Et puis il y a une forme de oui, moi ça me dérange pas, il y a une différence en anglais entre nude et naked qui me plaît bien.
Dites-moi la différence.
Ben il y en a un qui est être nu en suggérant une forme de sexualité et un autre qui est le corps nu comme étant un corps pas habillé, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Je pense souvent à la photo de Saint-Laurent nu, par exemple. Pour moi, c'est une photo où il est naked. Il est pas nude. Il n'y a pas d'ambiguïté dans le regard. Il y a un corps, voilà. Et là-dessus, sur mon côté très animal et peut-être un peu 70 et anglais, tout le monde a été élevé plutôt... Enfin, dans ma maison, mon fils et moi, on a toujours été assez à poil, effectivement. Et j'aime bien les corps. Donc, pas maquillée, au réveil, un peu de mauvais poil, des bouts de corps et plein de cheveux, ça me plaît pas mal.
Alors, nous y sommes. Vous touchiez le mur. Là, nous y sommes devant la Flèche d'Or,
ouais.
Dans le 20e arrondissement de Paris. On va repartir en arrière, revivre votre premier concert qui commence à dater. D'abord, vous connaissez l'origine du nom, la Flèche d'Or ?
Oui, c'est la locomotive qui va vers l'Angleterre.
On n'échappe pas à son destin. Vous avez dit ça, cette espèce de prédestination, votre premier concert, vous le faites à la Flèche d'Or. Et effectivement, Golden Harrow, c'est ça ?
Oui,
Ouais. Un train de première classe avec les wagons Pullman.
C'est ça.
Et c'est là. Non, vous ne croyez pas qu'il y a une prédestination dans tout ?
Ben, c'est vrai que, j'y crois. Je crois beaucoup aux signes. Effectivement, j'aime les trains, j'aime les gares. Je pense que je fais une musique qui a à voir avec une forme de mouvement et d'errance ou de répétition. Et c'est vrai que j'aime beaucoup... J'aime les lieux, et un lieu avec autant d'histoire, et en plus les lieux qui se transforment me plaisent toujours. Les lieux qui étaient une chose, qui en deviennent une autre. Et d'ailleurs, la flèche va devenir encore autre chose, on ne sait pas encore.
Non, on ne sait pas très bien, ouais.
Mais le fait qu'il y ait plusieurs vies me plaît assez. La vue incroyable sur les train tracks, derrière de la voie, mais on en voit un bout d'ailleurs.
Oui, parce que c'est aussi une ancienne gare désaffectée.
C'est
hein,
ça,
Charonne.
C'est ça. Ouais. Donc ce vestige est assez émouvant, et puis je suis assez nulle, mais s'il y a des geeks qui ont envie de se renseigner, il y a un vrai litige avec ce lieu, c'est la raison pour laquelle ils ont tant de mal à le vendre, parce que les rails appartiennent à la SNCF, et si je dis pas de conneries, à l'époque, quand on freinait, ça balançait tellement de gravillons, qu'il y a un litige juridique sur le fait que la SNCF détient les mètres cubes d'air autour des tracks.
Ah oui, d'accord.
Les détient ou ne les détient pas, je ne me rappelle plus de quel côté, ce qui fait qu'ils ont beaucoup de mal à vendre cette chose-là, parce qu'elle tombe sous une loi un peu étrange des chemins de fer du siècle dernier.
Ouais. Alors, 2012, vous vous souvenez de votre état d'esprit au moment où vous allez donner votre premier concert ? Vous venez de sortir votre premier album Places, ouais, produit par Étienne Dao. Il y a quoi dans votre tête à cette époque-là ?
Une panique monumentale pour sûr, le fait de jouer devant des gens, ce qui m'était jamais arrivé. Après, de l'autre côté, une angoisse de décevoir mon tourneur, Jules Frutos, que j'aime tendrement, qui d'ailleurs était propriétaire de La Flèche.
Que lui ?
Qui m'avait, non, je crois avec Poubelle.
Je crois non, mais je veux dire décevoir que lui ?
Oui, dans le sens où j'étais confrontée au fait... Comment l'expliquer sans que ça soit... On s'est mis d'accord ensemble, et la raison pour laquelle j'ai décidé de travailler avec Jules Fruteau, c'est parce que c'était le seul tourneur qui ne me proposait pas une grande salle. Il m'a dit, tu vas commencer par une petite salle, par un club, et si ça marche, on verra ce qui se passe. Ce que je trouvais assez rassurant et qui me rappelait très certainement Jacques Doyon, mon paternel, et j'aimais bien l'idée qu'il allait me faire monter chaque marche l'une après l'autre. Et donc c'était la première marche, et je savais qu'il prenait un risque en faisant ça, parce qu'il essayait de me donner une crédibilité, ou si j'avais commencé par une salle comme un an de tournée province pour faire un Olympia, c'était beaucoup plus classique en fait, vu que c'était un album qui marchait déjà, de croire en moi comme étant une vraie personne de scène qui peut en fait s'en sortir dans un club sans lumière, sans tous les artifices qu'il y aurait autour, c'était un vrai risque qu'il prenait. Alors c'est pour ça que l'idée était de ne pas le décevoir, et je ne voulais pas non plus être émouvante et être une petite chose fragile, parce que les femmes qui m'ont inspirée à faire de la musique étaient des femmes costauds sur scène.
Oh là là, gardez ça dans un coin de la tête, ça se développe. Mais juste une petite chose, juste avant la sortie de Places, il y avait eu un premier titre qui s'appelait I See You.
Ouais.
Ça faisait comment ?
I wake up some mornings, thank God, not as often as I used to.
Ah, c'était bien ça. Bon, on va essayer de rentrer, mais je vous promets rien.
On essaie.
Parce que, hein, voilà.
On fait les têtus, on ouais, écoute.
Ça se trouve, on va se revirer, peut-être.
Okay.
Restez
bravo,
là.
Bravo.
Restez là, s'il vous plaît. Il y a un petit suspense en cours.
On va tout vivre en 10 minutes. On est dans la rue, on sort, on va se faire virer d'une boîte de nuit. Mais ça nous avait manqué. C'est vachement bien. C'est vachement bien.
Nous sommes avec Lou Doyon et c'est déjà rock'n'roll. À tout de suite sur Europe 1.
Pascal Clark, en balade avec Lou Doyon sur Europe 1.
D'un seul coup, Lou Doyon, 9 années en arrière, toujours devant la Flèche d'Or à Paris, revivre votre premier concert, comme si c'était hier. Voilà la situation. Les propriétaires ne veulent pas qu'on rentre. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est ouvert parce qu'il y a un tournage de film, figurez-vous. C'est le dernier jour du tournage. Est-ce que vous pensez qu'on va passer une tête simplement ?
On passe une tête.
On passe une tête ?
Ouais, on passe une tête. Évidemment qu'on passe une tête. Pour dire bon appétit déjà.
On reste juste là hein, pour ne pas se faire virer. Voilà. Alors, impression. Qu'est-ce qu'il y a des choses qui remontent ou pas ? Qu'est-ce qui revient ?
J'adore cet endroit.
C'est vrai ?
Bah ouais, un plaisir de. Déjà la nanologe qu'on ne voit pas mais qui est là, où il y a une toute petite porte. Enfin, trapounette, c'est vraiment la loge la plus petite de l'histoire. Et de là, moi, je pouvais regarder en douce les gens qui étaient en train de rentrer.
Ah, vous avez regardé ?
Ouais.
Et alors, bah, c'était blindé.
C'était blindé, ce qui était fou. Ma mère m'avait envoyé un mot en me disant « Mais il y a la queue dans toute la rue. » Et puis, ce qui peut paraître assez étrange et en même temps non, j'ai beaucoup d'angoisse, j'ai des obsessions. Et donc, je m'endors avec « Faites entrer l'accusé ». C'est la seule émission qui me calme étonnamment. Et là, en regardant par le hublot, la première personne que je vois à mon premier concert, c'est Ondelat.
C'est pas vrai.
De cet hublot-là, je l'ai vu. Et je me suis dit, c'est un bon omen.
Non, c'est un bon signe.
Donc c'est un, voilà, c'est un très bon signe.
Sauf s'il venait vous trucider.
Exactement, ou qu'il y avait eu un meurtre. Mais vision improbable dans mon hublot, on l'atte. Et ensuite, ma mère essayant de se planquer, de venir discrètement. Et j'avais mis un t-shirt où j'étais assez fière de moi, où il y avait écrit « I'm a virgin » devant. Et à la fin du concert, quand je me barrais, dans le dos, il y avait écrit « But this is a very old t-shirt ».
Ce qui veut dire
C'est un très vieux t-shirt.
Ah oui, bah ouais.
Je suis vierge,
non, mais
c'est un très vieux t-shirt.
Tout le monde n'est pas bilingue dans la vie.
Tout le monde n'est pas bilingue, mais là, les gens comprennent.
Ah ouais, ouais, ouais. Une première fois, il y a forcément de l'effroi.
Oui, très certainement.
Vous pouvez le décrire ?
C'est une panique tellement monumentale que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez étrange de voir la physicalité de la chose. Je sais qu'une fois, j'avais demandé à un médecin, j'ai dit « Est-ce que je pourrais avoir une sorte de vêtement capteur pour qu'on puisse analyser en sortant de scène les émotions physiques qui se passent ? » Parce qu'effectivement, il y a des...
Ça se passe où ? Dans le ventre, dans le cœur, dans...
Partout, partout. Des fois, tout le sang, s'il se passe un problème, tout le sang part dans les pieds, mais vraiment comme si on portait des bottes de sang et d'angoisse. Les mains, ce qui est très compliqué quand on fait de la guitare, deviennent toutes en sueur et moites. Et on a un chat dans la gorge, bien évidemment, juste avant. Mais j'ai pu me venger parce qu'on a fait deux concerts ici, au tout début. Et ensuite, j'ai pu finir ma deuxième tournée. On avait fait une tournée monde. La dernière, les deux dernières, je les ai faites ici. Une avec le groupe en concert normal et une toute en acoustique où les gens étaient assis par terre, où c'était extrêmement joyeux de revenir avec une nouvelle force.
Donc oui, comme une petite vengeance, mais en ressenti, ça n'avait plus rien à voir. À voir
rien
parce
à
que
voir.
C'était l'effroi, donc il n'y a pas de plaisir la première fois. Il y a rarement de plaisir la première fois.
Étonnamment, il y en a. Il y en a par moment parce qu'une heure 20, c'est long. Et pendant cette 1h20, on a des moments, notamment dans les solos des musiciens ou dans des moments instrumentaux, où on se rend compte. Pendant 2 secondes, on peut regarder ce qui se passe. Et c'était une chose terriblement émouvante que de faire un premier concert où le public connaît déjà les paroles des chansons.
Oui, parce que l'album avait été largement diffusé,
parce que l'album avait marché,
a été un succès, etc. Ouais. Combien de concerts à votre actif depuis, même si ça ne se compte pas forcément, et qu'avez-vous appris ? En quoi vous êtes-vous amélioré, vous le savez ?
Je dirais qu'on doit être autour de 150 concerts, 200, un truc comme ça. Ce qui s'est passé, et qui est quand même très joyeux, et ça s'est passé sur la dernière tournée, de plus en plus le plaisir grandissait, mais d'un coup, le plaisir a vraiment été d'en faire une affaire très personnelle, en fait. Et de...
On a le droit de fumer. Moi, je vous dis, on a le droit de fumer dans la rue.
À la radio, on a le droit.
À la radio, on a tous les droits.
Il y avait le fait, au bout d'un moment, de se dire que l'idée est profondément de rendre hommage aux gens qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et c'est
alors, on y revient, c'est qui ?
Ouais. Ah, voilà. C'est Catherine Ringer, bien évidemment. C'est Nina Simone. C'est PJ Harvey. C'est Nina Hagen. C'est que des filles qui ont peur de rien, quoi. Ou en tout cas, qui nous font croire qu'elles ont peur de rien. Parce qu'on sent bien, on ne fait pas ces métiers-là si on n'est pas des ultra-sensibles, d'une manière. Donc. Mais c'est l'idée de se dire que la baston qui se passe sur scène, c'est de tuer mon désir de plaire. C'est ça qui me plaît le plus, maintenant.
Oh là 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 là. Non, mais ça fait des thèmes super profonds, là. Tuer le désir de plaire.
Ouais. Et ça, maintenant, ça fait que c'est des concerts vraiment joyeux, parce que je sais que j'ai de quoi donner, et que la chose que je peux donner le plus, c'est tuer l'ego, d'une manière.
Ah ouais, mais en quoi il y a un problème dans le désir de plaire ?
On ne peut pas vivre sa vie dans le regard des autres. On ne peut pas vivre sa vie dans le plaisir des autres. Alors après, on a besoin des autres. On le voit, ça fait un an qu'on est masqué, et je trouve qu'on a perdu tout...
On a perdu le bas.
On a perdu le bas, mais donc tout l'échange. Les sourires, les sourires aux inconnus, la vie sociale, quelqu'un qui se pète la gueule, on est 10 qui se retournent, on sourit, quelqu'un fait tomber quelque chose, tous ces échanges-là sont partis. Donc c'est vrai que là, ça me manque un peu de vivre dans le regard des gens de la ville, parce que en tant que fille de la ville, j'ai l'habitude de vivre dans le regard des autres de cette manière-là. Mais pas de prendre son importance dans le regard des autres. J'ai pas envie que ça soit un moment où on vient passer 1h30 à être bluffé par quelqu'un, on s'en fout et c'est absolument pas ça le sujet.
On va partir dans la ville précisément, Loudoyon, parce que là on est dans le 20e, donc un tout petit peu excentré. Nous allons voyager vers la prochaine étape en voiture, parce que c'est un petit peu loin. Où allons-nous ? Eh bien, si vous voulez le savoir, restez là. Eh ouais, c'est comme ça, ça se mérite. Ne quittez pas, nous sommes avec Loudoyon.
Pascal Clark se balade avec Loudoyon sur Europe 1.
Situation un jour de février 2021, toujours sous virus. Une jeune femme masquée de noir, à l'arrière d'une voiture, en route vers le centre de Paris, quartier latin à quelques encablures de Notre-Dame. Cette jeune femme s'appelle toujours Lou Doyon. Bon, je me demandais, même si on a dû celle-là vous la poser 15 000 fois, mais j'ai pas la réponse. Lou, c'est pour poème à Lou ?
C'est un doublé assez heureux. L'histoire, le conte, serait que dès le test de grossesse, ma mère écrit sur un papier Lou entre parenthèses Guillaume Apollinaire et mon père écrit Lou entre parenthèses Andrea Salomé.
Ah oui, bah oui, il y a deux versions.
Donc c'est ces deux Lou là.
Vous avez échappé belle, vous auriez pu vous appeler Loulou.
Il y avait le Loulou de Pabst, plus que le parfum, mais j'ai pas échappé à 10 ans du parfum, hein, ça.
Ah oui, c'est ça.
Forcément, et heureusement, j'ai été sauvée par la pub des nuls, qui arrivait au bout d'une dizaine d'années.
C'était quoi déjà ?
C'était toujours très étrange avec une actrice très belle, tout en noir et blanc, ressemblant à la Loulou de Pabst pour le coup. Et tout le monde demandait Loulou, est-ce que quelqu'un aurait vu Loulou ?
Ah,
et
oui.
Heureusement, Chabat a mis fin à cette question en répondant « Elle est au cabinet », sur quoi c'était la fin de cette pub. Et moi, j'ai commencé à recevoir d'autres cadeaux, donc c'était pas mal. Mais...
Et Lou, à l'usage, vous validez ? Ça va ?
C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Mais petite, moi, j'avais vraiment, à l'école, les professeurs ajoutaient un « P ». Ça n'existait pas, Lou, c'était donc on m'appelait Louise, où je disais non, c'est Lou. Donc on me mettait un P comme Jean-Loup, et puis à la cour de récré, c'était tous les enfants en faisant... Et c'était vraiment associé à l'animal. Donc petite, d'avoir un prénom d'animal, ça me plaisait beaucoup, et d'avoir un... Oui, d'avoir comme un totem indien de cet animal-là. Et puis aux États-Unis, c'était très joyeux, parce que c'est... Tous les mafieux dans les années 50, la moitié des rôles d'Edward G. Robinson, il s'appelle Lou. Donc je pouvais être aussi un mafieux américain. Et en Angleterre, ça veut dire les chiottes. Donc ça donne un panel assez joyeux.
Belle envergure, oui.
Totem animal, quelque chose de fort utile en Angleterre. Et puis possiblement un côté un peu masculin dominant américain. Et puis c'est Lou Reed. Donc petite, c'est le seul. Ouais. C'est Lou Reed.
Aussi loin que vous en souvenez, vous avez voulu être artiste ou alors le cheminement a été bien plus sinueux que ça ?
C'était plus sinueux. Alors il y a déjà la grande bizarrerie que je ne pense pas qu'on m'ait posé la question et que je sais que la seule fois qu'on m'a posé la question qu'est-ce que je voulais faire, j'ai répondu pas actrice. Donc ça devait m'amuser un peu moyennement et en même temps, je dirais que j'ai tellement été élevée par des artistes, mais ce qui ressemble plus à des artisans, finalement, dans une maison où les gens faisaient, s'appliquaient et se mettaient beaucoup au travail. Donc il n'y avait pas ça n'avait rien à voir avec la célébrité ou rien à voir avec avec ce qu'est la célébrité aujourd'hui. Là, c'était vraiment quelque chose d'avoir toutes mes sœurs qui faisaient des choses avec leurs mains, mon père qui écrivait ses scénarios, qui les filmait, qui était cadreur, mais qui aussi est monteur, qui montait à la maison. Donc on partait de la maison, il y avait la table de montage de Jacques pour aller chez Varda qui était sur sa petite table de montage à elle, et puis on repartait pour voir je sais pas, que des gens qui étaient finalement très importants aujourd'hui mais qui étaient modestes pour moi petite, donc Nathalie Sarraute avec ses petits crayons en train d'écrire dans son petit cahier, qui tout le monde était extrêmement au travail mais très modeste, et effectivement ça donnait envie. Mais parce que c'était très sexy de voir des gens si concentrés. Donc c'est vrai que la chance que j'ai, c'est qu'enfant, chaque personne qui m'entoure est obsédée par quelque chose et se sacrifie entièrement pour cette chose-là. Alors l'idée de faire un métier pour lequel je n'aurais pas ni à me sacrifier, ni à m'obséder, n'était pas un métier. Donc ça serait plus dans ce sens-là. Ils m'ont transmis l'idée d'être absolument passionnée par ce qu'on fait.
Sauf que la célébrité de vos parents était là quand même, Jane Birkin, Jacques Doyon. Est-ce que ça vous est venu dans la gueule, pardon pour l'expression, assez tôt quand même ?
Non, parce que la chance que j'ai eue, c'est qu'on m'ait protégée la première fois que j'ai une vie extérieure, c'est à la mort de Gainsbourg en fait. Et là, effectivement, je comprends la notoriété et c'est pas la plus drôle. Mais
pourquoi c'est la première fois ?
Parce que mon père est quelqu'un d'extrêmement pudique et donc on m'a élevée planquée. J'ai jamais été dans un magazine, j'ai jamais été à Cannes, j'ai jamais été dans des soirées, j'étais à la maison, donc tout ça était très normal en fait. Et vu qu'on regardait pas la télévision, vu que si, quand j'allais quand j'accompagnais ma mère en concert, je voyais bien que les choses étaient un peu bizarres quand on allait au resto, quand... mais je connaissais pas autre chose. Et j'ai de la chance, pareil, que ça a été bien vécu dans ma famille. Ma mère aime beaucoup être connue et reconnue. Elle le vit assez paisiblement. Mon père n'est pas connu, reconnu, j'espère. Connu, non, ce qui fait qu'on nous emmerde pas dans la rue. Serge, dans mon enfance, adorait qu'on l'arrête dans la rue. Ma grand-mère, qui n'était pas connue, aurait adoré qu'on l'arrête dans la rue. Donc, je veux dire, il y avait un truc où c'était pas vécu d'une manière pénible, mais aussi...
Ça tourne quand même autour de ça, qu'on le veuille ou non, que ce soit accepté ou repoussé. C'est une thématique qui est là, de toute façon, non ?
Ah bah oui, mais là-dessus, je suis née que là-dedans. On aurait pu, quand j'étais petite, je trouvais qu'on aurait pu mettre au-dessus de la maison actrice depuis 1903. Parce qu'effectivement, ma grand-mère est actrice et ses parents l'étaient aussi, donc on a toujours fait ça, mais ça ressemble plus à des... C'est comme des vides forains. Je suis assez amie avec des gens qui sont dans les cirques, et c'est vrai que ça se transmet cette passion-là. C'est une manière tellement différente de vivre. Oui, quand je travaillais au cirque d'hiver pendant quelques semaines, je voyais bien un garçon qui était dresseur et qui était en tombe amoureux d'une voltigeuse, et les parents étaient très tristes en disant mais on voulait tellement qu'il fasse des études et qu'il fasse un autre métier, et je voyais bien comment est-ce qu'on passe de la voltige à d'un coup essayer d'avoir un rapport à la vie qui serait pas dangereux.
On va écouter un premier de vos titres, Loudoyon, extrait de votre nouvel mini-album.
Ouais, de l'EP.
Exactement. Ça s'appelle... je pense qu'il n'y a pas tellement de hasard. Ça s'appelle Look at me now. C'est comme une injonction, pardon.
C'est...
Allez, regarde-moi maintenant.
Non, c'est plus... C'est ça qui est heureux quand on fait un métier d'écriture, c'est qu'il y a énormément de parts d'inconscient. Et contrairement à un écrivain qui passe beaucoup de temps avec son propre travail et donc qui a le temps de s'y voir avant de le rendre d'une manière, en musique, ce qui est heureux, c'est que ça va plus vite. Ce qui fait qu'on écrit des choses et puis on les chante et puis ça sort et puis...
Et puis là, on découvre ce qu'il y a dans son
inconscient. Et Dao dit que c'est 7 ans avant de vraiment comprendre. Alors, Look at Me Now, techniquement, c'est une chanson sur la déception et le fait de devenir quelqu'un d'extrêmement rigide et dans le jugement. Judgmental, comme diraient les Anglais. Et donc, c'est de dire, mais regarde-moi, ça y est, je suis devenue cette personne insupportable qui tient des comptes, qui reproche, qui se souvient de tout, qui, voilà, on vieillit et on peut devenir cette personne-là. Et donc, c'est plus une défiance de dire, regarde ce que je suis devenue, avec une teinte négative dessus. Maintenant, vu que je l'ai choisi pour en faire le titre de l'EP, est-ce qu'en fait, ça dit pas « Regardez-moi » Peut-être que c'est ça, je sais pas encore.
Allez-y, lancez-le, puis ça va partir.
Allez, Look at me now.
Sur Europe 1, Loudoyon.
Look at me now, that's more than a reminder. I've always been sitting down, I'm keeping order. Sitting surround you, but the declarations. Miles and miles of trials, my hesitations. I sit and wonder. I sit and stare. I sit and wonder. I sit and stare. Miles and miles of drums, my declarations. There's no bullet here, there's no gun. Oh, no bullet here, hear my pain. I sit and wonder. I sit and stare. Still.
Cat Menao, je le dis beaucoup moins bien, mais enfin, on va s'en contenter. Signé Lou Doyon, c'est une émission bilingue où on peut parfaitement progresser en anglais. Nous sommes en approche de notre prochaine destination, une librairie qui ressemble à Lou Doyon, j'en suis sûre. Vous allez comprendre. See you soon sur Europe 1.
Pascal Clark, en balade avec Lou Doyon sur Europe 1.
I just received on Instagram a note from Kalokami Maiko, Breast and Eggs.
Yes.
Because I said I love the book. She sent me a note this morning saying, I'm so happy you like my book, I will send you Heaven, which is the new one that's coming out in June.
Oh, you're kidding.
And I was like, oh, I discovered it. She's my company.
God. Isn't it great?
It's wonderful. I gave it to my mum. And I read the Circe, which I love.
Isn't it amazing?
Super
I love
beautiful.
It.
Amazing.
What is it? Women?
Not,
no, a bit boring. Read it, but
boring.
But descriptions are amazing.
Amazing.
I wanted more.
Like that. Well, I'm going to open the door, so you can come in whenever you want.
Thank you.
Was it déjà venu?
Bonjour.
Bonjour, pardon, Sylvia.
Excuse me. Vous êtes Sylvia?
Oui.
Ah, oui, oui, oui. Sylvia from Shakespeare and Company.
Oui.
Ah. Alors,
bienvenue.
Merci beaucoup. Je sais que vous êtes en inventaire.
En inventaire, mais là, on a presque fini. Donc, on va vous laisser rentrer. Vous pouvez y aller. C'est pas aussi joli que normalement. Les livres sont un peu mal présentés, mais bon. Et après, on va petit à petit, on va remettre les choses.
Ouais. Lou Doyon, Shakespeare and Company, vous cherchez là? Vous venez souvent? Vous êtes une habituée?
Oui, non, je viens très souvent et effectivement, c'est je pense, mon endroit préféré à Paris.
Alors, localisation, faut l'écrire.
Localisation est quand même assez merveilleuse. Donc, on a effectivement Notre-Dame, pile en face de nous.
Bah en face, là, avec les grues, les échafaudages.
C'est ça. Elle est là. On a un square juste devant.
Avec le plus vieil arbre de Paris.
Oui,
non. Avec le plus vieil arbre de Paris,
qui est là-bas. Et je pense le plus vieil église aussi, Saint-Julien-le-Pauvre.
Ouais. Ouais.
Le vieil arbre, là...
Il est dedans, il est là.
On regardera.
16e siècle, je pense.
Wow.
Il faut regarder, il y a une plaque devant.
Et alors, vous venez ici, Lou, pour acheter des livres en langue anglaise ou pas seulement?
Ouais, il y a des livres en français aussi, mais je viens acheter des livres en anglais, ça c'est sûr. Et puis, c'est un vrai lieu. Donc, il y a le café qui est juste à côté. Mais surtout, c'est un des rares endroits où non seulement on peut lire des livres, mais où il y a une communauté de lecteurs. Donc, au premier étage, il y a des canapés, on s'allonge. Moi, je viens des fois rester 3-4 heures. Il y a un piano, il y a un chat. On rencontre d'autres gens. Il y a un tableau merveilleux où des gens se laissent des mots, des conseils de livres, des mots amoureux. Et c'est quand même un endroit merveilleux. Moi, c'est la seule fois de ma vie j'étais dans... Donc, il y a toujours des gens assez divins en plus qui sont dedans. Et un jeune homme que je ne connaissais pas, extrêmement beau, me tape l'épaule et me dit « You're gonna love this book », vous allez adorer ce livre. Je n'ai jamais revu ce type. Et c'était « L'autobiographie du rouge » de Anne Carson, qui est depuis un de mes livres préférés. Donc voilà, c'est l'endroit magique à Paris où on peut tomber sur des gens qu'on ne connaît pas, qui vous offrent des livres ou qui vous conseillent. Merveille.
J'ajoute que mon père, qui a fondé la librairie ici en 51, c'était quelqu'un de très bohème. Mais quelque chose qui m'a toujours dit, qu'il faut garder la poésie. Et par exemple... Les étagères, il ne faut jamais bloquer les étagères pour qu'une lecteur peut croiser les yeux d'un autre lecteur à l'autre côté des étagères et peut-être tomber en amoureux.
Oui, on n'est jamais à l'abri. Hein.
Le côté romantique, c'est un peu fait exprès.
donc cette librairie a 70 ans, c'est ça?
Oui. Ouais.
Et c'était le lieu de passage à une époque de beaucoup d'écrivains, notamment la Beat Generation, c'est ça? Il y avait qui?
Tous les Beats, donc William Burroughs, Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti, mais aussi Richard Wright. Sa fille, elle a passé l'autre jour, je l'ai vue, et James Baldwin, Anais Nin et Henry Miller, donc Julio Cortázar aussi. Donc.
Jim Morrison est venu, il paraît, c'est
Jim
vrai?
Morrison, oui, il a écrit une poème, il a noté la librairie. Oui.
Et Lou Doyon?
Oui, moi j'ai pas écrit de poème dedans, mais c'est vrai que il y avait des rumeurs au tout début qu'effectivement les écrivains dormaient entre les bouquins le soir,
qu'ils
dînaient ensemble, donc on sentait qu'on était avec eux, quoi.
Oui.
Hein? Il paraît qu'il y a une tradition.
Oui, les tumbleweeds, on les appelle les tumbleweeds.
Ça veut dire quoi?
Donc c'est en fait l'idée, un tumbleweed c'est la plante sèche qu'on voit souvent dans les westerns, les films, qui roule. Ouais. Et en fait mon père il disait toujours que les tumbleweeds c'est des gens qui entrent et qui sortent avec le hasard de le vent. Donc c'est les gens souvent qui n'ont pas beaucoup d'argent et qu'ils ont envie d'être, d'avoir une expérience littéraire à Paris. Et donc souvent, j'ai des jeunes qui arrivent avec Ulysse en dessous d'un bras, On the Road en dessous l'autre, et une bouteille de whisky, et qui me demandent si j'ai un lit pour le soir.
Alors, ça existe toujours, on peut dormir en haut, il y a un petit deal quand même.
Oui, en échange, ils doivent écrire une page sur l'histoire de leur vie. Donc on a 30 000 pages des histoires des gens qui sont passés par ici. Ça, c'est très beau. Et après, normalement, ils devraient lire un livre par jour. Ah. Mais bon, ce n'est pas du tout testé. Et ils nous aident avec l'ouverture et fermeture de la librairie.
Et il y a le soleil qui s'invite, là.
Ouais, voilà. Pile sur vous. C'est assez merveilleux.
C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri d'un arc-en-ciel.
Il est là, je le sens.
Parce qu'il y a quand même un petit peu de goutte de pluie.
Ah, ça serait sympa si c'est voilà. Autour de Notre-Dame. Ah.
C'est assez extraordinaire. Je pense que c'est l'âme de quelqu'un, là, qui vole. Vous y croyez, vous, Lou?
C'est l'âme de quelqu'un, ça c'est sûr.
Ouais.
Ça c'est sûr.
Mais alors qui?
Peut-être son père.
Ah, peut-être votre père.
Oui, peut-être. Ou un ISN, je sais pas.
Oui, très bien, très bien.
Des oranges qui passent.
Juste une question avant qu'on puisse rentrer, Sylvia. Vous avez lancé un petit appel à l'aide pendant le confinement chez Shakespeare & Company. Vous étiez un petit peu en difficulté quand les librairies étaient fermées. Maintenant, ça va?
Ça va mieux et on a réorganisé les choses. En fait, je suis confiante qu'on va rester là toujours, mais c'est juste une question de quelle forme, si on va toujours garder le café ou la pièce de poésie, c'est toutes ces questions-là. Mais on a créé une association qui s'appelle Les Amis de la Librairie et ça marche très bien. Et donc, ça protège le côté associatif de la librairie, que c'était toujours la librairie qui payait pour les écrivains qui passaient, pour les événements gratuits. Et en fait, on a séparé ça et créé une association pour protéger toutes ces activités en fait, qui aboutent non lucratif. Mmh. Mais en même temps, sans ça, on n'est plus Shakespeare Company.
Bah, bien sûr. Donc, nous doyons plutôt le café ou plutôt la poésie à choisir?
Ah bah plutôt la poésie à choisir.
Bon, allez, on va rentrer dans cette librairie incroyable.
Il faut un inventaire dans le café, mais je pense que je peux vous offrir un café. Je vais voir.
Oh là là, quelle joie, la joie totale. Il s'en passe des choses avec cette balade de Lou Doyon. Hein, il s'en passe quand même énormément.
On va avoir soleil, café, terrasse.
C'est trop, moi je dis que c'est quasiment trop là. Allez, ne quittez pas, il va s'en passer encore. Vous êtes sur Europe 1, à tout de suite.
Pascal Clark se balade avec Lou Doyon sur Europe 1.
Un allongé.
Ouais, pareil.
Deux allongés
avec du sucre.
Ouais.
Café. Café, espresso.
Alors, deux allongés, un expresso.
Un allongé.
Allez.
On rentre par où?
On rentre par là.
La librairie Shakespeare & Company en face de Notre-Dame, est fermée pour inventaire, mais comme Lou Doyon a ses entrées un peu partout. Oh là, il y a de la lecture.
Surtout chez les bouquinistes.
On rentre par le...
On rentre par là.
D'accord. On y va. Revois la Sylvia.
Oui, on est juste en train de faire le petit bruit.
Bonjour tout le monde.
On vous attendait, justement.
Voilà. C'est vrai. Ah, j'ai l'alcoolique.
On a bien travaillé. Voilà.
Il manque plein de livres.
C'est le chien de la librairie? Non, c'est pas lui.
Oui, c'est Colette. Ouais.
Colette?
Colette.
Ah ouais.
Ouais.
C'est la mascotte.
Elle est là depuis 2007, voilà, ouais, c'est ça. Ouais.
Bon, je vous embarque.
Allez, on vous suit, Lou Doyon. Elle est comme chez elle. Voilà, nous sommes dans la librairie Shakespeare and Company. Où va-t-on? On va au premier tout de suite?
Ouais, ah, je vous embarque tout de suite.
Tout de suite au premier étage.
Ouais.
Alors, évidemment, c'est la moindre des choses. Comment la décrire, Lou? Faut faire un effort, là, on est à la radio.
Alors, on est en train de passer. Bah, déjà, on est devant Louis Aragon et Carson McCullers, ce qui est pas mal.
Ça va, il y a pire.
On monte les escaliers, il y a des choses écrites un peu partout. Maintenant, il y a Marguerite Duras sur la gauche avec Simenon. Il y a des très jolies vieilles tomates au sol.
Ah, ouais.
Voici le mur, voici le chat dont je parlais. Hello, darling. Hello.
Mais ça va avec Colette, le chat et Colette, ils s'entendent
non,
bien.
Non, c'est pour ça que lui reste en haut avec,
sa
queue cassée. C'est ici qu'on peut écrire un mot.
Alors voilà, il y a des mots du monde entier, évidemment. Ouais. Sur des tickets de métro, sur de petites photos, il y a des cœurs.
Il est grand temps de rallumer les étoiles.
Ah ouais, un grand classique mais efficace.
Et pas mal. Je t'aime, Lydia. Pas mal. Then I saw her face. Now I'm a believer. Merveille. Et donc tout ça, c'est les bouquins qui ne sont pas en vente. Et où là, on peut prendre...
Ce sont des bouquins rares, j'imagine.
C'est un grand bordel, un mélange de plein de choses, mais assez joyeux. Puis ici, il y a l'autre canapé où on peut se mettre peinard, que j'aime beaucoup, avec le piano. Ils sont toujours assez faux, mais...
Extraordinaire.
Voilà, et tout est un peu... Enfin, rien ne bouge.
Alors, vous venez quand ici? Quand ça va, quand ça va pas?
Exactement, dans les deux cas, quand ça va et quand ça va pas. Et puis, le père de Sauvia avait une idée assez jolie qui était que les gens qui lisaient des bouquins avaient le droit d'exercer cette activité le dimanche. Et que s'il y avait une église en face qui était ouverte, il fallait que lui soit une église, un temple de la littérature. Donc c'est ouvert les dimanches. Et donc c'est vrai que souvent, le dimanche, c'est un peu comme une église. Je viens ici, je trouve des bouquins et puis je me pose dans un coin où je fais un peu de piano. Ou alors... Puis il y a la pièce au bout que j'aimerais louer. Voilà, s'il fallait avoir un bureau.
Oh, la vue.
Non, ouais.
Ah non, mais la vue par la fenêtre, vous n'y croyez pas.
Ça, c'est incroyable. Donc c'est ici qu'il y en a qui bossent à la machine à écrire. Ça, c'est pour se brosser les dents, si besoin. Et puis...
Ah voilà, la pièce du fond.
La pièce du fond, qui est quand même dingue. Avec Sylvia Beach.
Sylvia Beach, ouais.
Et la vue, quand même, absolument délirante.
Sur Notre-Dame.
Sur Notre-Dame.
Et ses grues et ses... Ça, c'est Paris.
Ouais.
Non, c'est vrai.
Ça, on rêve un peu d'avoir une pièce comme ça dans sa vie, en se disant si ça pouvait être une petite chambre à coucher.
Et alors vous, bon, on n'en a pas encore parlé, mais enfin, la littérature, c'est... les livres, l'écriture, tout ça, c'est partie intégrante de votre vie au quotidien.
Ouais. Oui, c'est une famille choisie, et c'est toutes les... Je suppose que je suis un peu... J'ai besoin de vivre plein de vie. Je pense qu'actrice, c'est en partie pour cette raison-là, d'avoir le temps de vivre plus qu'une vie, finalement. Et toutes les vies sont dans les livres, en fait. Donc c'est vrai qu'il m'arrive rarement dans la vie d'être face à une situation que je ne connais pas, juste parce que je l'ai connue dans un livre, ou je l'ai connue d'une autre manière. Et puis c'est, je trouve, la meilleure manière de ressentir de l'empathie et de devenir quelqu'un d'autre. Donc j'ai eu la chance d'être un homme, d'être un vieillard, d'être une très jeune fille, d'être une, ouais, d'être dans un monde futur, dans un monde passé, dans un monde rêvé. Et c'est comme une famille. Ouais.
Ça sert aussi à apprendre à vivre, parce que parfois on oppose les deux, c'est-à-dire la littérature et la vie.
Ouais.
Mais en fait, c'est complètement imbriqué. Ça vous a aidé à vivre de lire des livres ?
Absolument. C'est mieux qu'une pharmacie pour moi. Et après, en plus, on peut choisir de se complaire dans le sentiment, d'aller encore plus loin. Donc on est dans de la tristesse ou une fin d'histoire et on lit La fin d'une liaison de Graham Greene, par exemple. Ou on peut se contrer, ce qui est pas mal, lire des choses extrêmement drôles quand on va pas bien. Ou alors on peut se rêver, trouver des gens qui nous donnent envie de tendre vers eux. Donc c'est des alliés, mais c'est... Oui, c'est comme des médocs. Il y a d'ailleurs un bouquin assez drôle en bas qui s'appelle La pharmacie littéraire, un livre anglais, et qui, en fonction de l'état, dit quel livre il faudrait lire. Et j'aime bien faire ça pour mes amis, d'ailleurs, ou pour les enfants de mes amis, de trouver voilà, le livre qui peut aussi vous donner accès au livre en général. Il faut toujours trouver le bon.
Ouais. Est-ce que tout ça contribue à, pour vous, à faire en sorte que vous trouviez votre place? Et est-ce que c'est encore votre problématique, places, trouver votre ou vos places dans la vie, Loudoyon?
Oui, je pense que si tout va bien, ça ne sera jamais trouvé. Enfin, je pense que...
Bah un peu quand même, non?
Oui, mais une fois que je l'ai trouvé, j'aime bien en bouger. Je ne pense pas que j'aime le confort. Donc finalement, c'est assez joyeux que de pouvoir se remettre en question. Et j'ai de la chance de faire un métier qui, de toute façon, se remet en question.
C'est quoi votre métier? Parce qu'il y en a beaucoup.
Mon métier...
Le vrai, c'est quoi?
Il y a une phrase que j'aime bien, je pense que c'est Jacques Brel qui dit « Les artistes sont des gens qui ont mal aux autres ». Je pense que j'ai besoin de ressentir fort et qu'à partir du moment où j'ai besoin de ressentir fort, il faut en faire quelque chose. Donc je fabrique des choses avec du sentiment. Je pense que c'est ça mon métier. Une fabrique à sentiment ou une fabrique à digérer du sentiment, je ne sais pas. Mais donc j'ai besoin des humains et la littérature est le meilleur accès à l'homme. Donc je regarde ça comme des essences. Il y a des gens qui ont vécu 70 ans d'une vie absolument incroyable, ils ont écrit 3 bouquins dans leur vie, c'est de l'essence pure. Donc oui, je pense que je ne peux pas me séparer d'un livre, j'ai du mal à jeter des livres, et puis je trouve qu'il n'y a rien de plus réconfortant. Là, c'est comme être entouré de plein de vieux amis.
Je ne sais pas si on va pouvoir partir. Hein.
Mais c'est dur de partir.
C'est dur.
C'est ma chose préférée, c'est visiter les librairies, parce qu'effectivement, c'est que des mondes possibles, quoi. là, chacun de ces bouquins, on serait quelqu'un, on serait dans un monde des possibles. Enfin, c'est incroyable. La littérature, en plus, c'est du ressenti, mais c'est de la musique aussi, parce qu'il y a la musicalité d'une phrase. C'est des couleurs, c'est des odeurs. Enfin, c'est tout y est pour moi.
C'est le moment d'écouter votre disque, Voyance Europe. Enfin, qu'avez-vous choisi?
C'est comme vous voulez.
Non, c'est votre choix. C'est votre choix.
Peut-être par rapport au bouquin, c'est la maison où j'ai découvert Ulysse de Joyce, c'est la maison où j'ai relu Homère en anglais, et donc peut-être que pour toutes ces raisons-là, on peut mettre All These Nights, qui est sur le troisième album, sur Soliloquy, que j'ai écrit en hommage à Joyce, à Dorothy Parker et à Homère.
D'accord.
Voilà.
Et ben on l'écoute tout de suite. Et vous allez le lancer, comme d'habitude, faites votre métier un peu, là.
Allez, All These Nights.
Par qui?
Par Lou Doyon.
Oh, sans blague. C'est sur Europe 1. À tout de suite.
Pascal Clark, en balade avec Lou Doyon sur Europe 1. Here by the ocean, where the water meets the cold, she awaits. Told her he'd be gone, didn't mention how long she'd have to stay. Back at the sun, and the earth that keeps on spinning, her fingers they keep weaving all these nights spent alone. He by the great wall for his men, for his pride he fights. Lost all he could claim, nothing left now but his name against the winds. He drifts away. Earth that keeps on spinning, his tears they keep on rolling all these nights far from home. Sorrow in his dreams, he sighs. He's met with every stranger, always seeking the same answers. Something to hold, something to keep. For the earth to keep on spinning, for an end to his longing. All these nights lost alone.
Qui a lancé Lou Doyon.
Oui, j'ai osé.
Mais c'est bien, vous avez raison. All These Nights.
Oui.
C'est ça, j'ai compris en plus. Toutes ces nuits, bah ouais. Allez, on va bouger, il va falloir s'arracher à cet endroit merveilleux. Bah ouais, si, il le faut. Shakespeare and Company. Et vous pouvez venir, hein, l'inventaire sera terminé d'ici peu. Donc,
oui.
Et venez,
oui.
Venez un dimanche, pourquoi
exactement.
Pas. Exactement. Ne vous inquiétez pas, on va retrouver un très bel endroit. On va longer le bord de Seine, il y a pire quand même. On revient tout de suite sur Europe 1, ça c'est Paris.
Pascal Clark, en balade avec Lou Doyon sur Europe 1.
Merci beaucoup à tout le monde.
Merci
Sylvia.
Merci pour la
merci.
Merci de nous avoir laissé entrer.
Non, mais
avec plaisir.
Thank you.
La
good luck.
Fois,
right. Bonne promenade.
Merci. Bonne promenade.
Merci.
Ça, c'est Paris, acte 2. Nous sommes quai des Grands Célestins. Il y a pire, franchement.
Il y a pire.
Voilà, nous longeons la Seine.
un peu haute.
Bah, bah oui, c'est que le début. Hein, non, en fait, je suis un peu béate, c'est pour ça que je parle pas, c'est tellement beau.
Je suis d'accord. Là, on a le soleil. On a des gens.
On a tout ce qu'il faut, là.
Ouais.
Vous nous verriez.
Ils sont merveilleux, ces arbres, parce que quand même, tenir avec les pieds dans la flotte à ce point-là.
Ouais.
Et ils ont l'air habitués.
Ils ont l'air habitués. Alors, on en était à... On a écouté un ancien titre de votre album d'avant. C'est quoi cette histoire d'autoproduire maintenant votre dernier mini-album? C'est un choix ou c'est une nécessité?
C'est un mélange des deux. Je pense que dans une année comme l'année qu'on vient de passer, c'était compliqué de demander à d'autres gens de prendre des risques finalement. Et j'assumais plutôt bien de prendre ce risque seul, sachant que le format de l'EP, donc un 3 titres, est un format très ancien et assez anglo-saxon finalement. Donc, vu que
c'est un peu les 45 tours de l'époque.
Exactement, ouais. Exactement. Donc c'est un tellement hors format, et vu que je venais de finir mon contrat avec ma maison de disques, il n'y avait pas un désir de recommencer une aventure sur un format comme celui-là. Et en plus, j'étais assez intriguée à l'idée de tout faire, du début jusqu'à la fin, pour voir peut-être le côté qu'on ne nous montre pas quand on est artiste. Qui est
ça
vraiment,
veut dire quoi tout faire?
Ben, c'est rassurer vraiment la production, la promotion, la production physique du vinyle, trouver les usines, recevoir les vinyles à la maison, les envoyer par colis, les faire les...
Ah oui, tout.
Ah oui, la totale, apprendre comment faire un code-barre, générer un code-barre, ah, voilà,
ouais.
Des choses
ouais.
Passionnantes, mais c'était intriguant. Voilà, c'est important aussi des fois de comprendre l'industrie dans laquelle on travaille.
Mm-hmm.
Et donc pour voir les rouages différents de ce système, surtout dans une année voilà, où c'était vraiment compliqué. C'était joyeux de ramener de la vie dans une époque où ce métier en particulier, le métier de la musique, était à ce point-là à l'arrêt, était dans une forme de morbidité ou de réenclencher de la musique, surtout un album totalement enregistré en live. Donc avoir un sentiment de oui, des arts vivants, du spectacle, c'était important de sortir cette chose-là.
Qu'est-ce qui vous manque le plus? Bon, vous allez me dire la scène, probablement, mais j'ai pas l'impression que vous fassiez partie de ces artistes qui crient au scandale, vous, sur la fermeture des salles.
Non, bah déjà, j'ai eu la chance d'avoir sorti un album en 2019, ce qui veut dire que moi, je me suis quand même fait un an et demi tourner. Donc voilà, contrairement à d'autres collègues qui, depuis 3-4 ans, n'avaient pas tourné ou qui s'apprêtaient à commencer une tournée, c'est évidemment moins violent. Après, de l'autre côté, à partir du moment où il y a un risque, pour moi, un concert, c'est vraiment une célébration d'une forme d'innocence, de quelque chose de païen et d'ancestral qui fait qu'on se lâche dans tout ce que ça veut dire. Donc l'idée d'être dans une période où on ne peut pas justement se lâcher, où il n'y a pas d'innocence, d'un coup, ma musique versus la santé des autres, la question ne se pose pas. Voilà, moi, l'idée de s'amuser à un concert, si d'un coup... Il y a l'aspect terrifiant de peut-être être infecté et peut-être infecter les autres. Non, j'ai aucune envie de ça.
Probablement que le mot que vous avez le plus prononcé depuis le début de cette balade,
c'est quoi?
Voyons, c'est risque.
Ah bon?
Ah oui, voilà. Faudra qu'on réécoute depuis le début, mais on est proche de la dizaine de fois.
Ok, je prends.
Ouais, c'est un beau mot, mais vous avez l'impression de mener une vie risquée ou...
Non, c'est vraiment relatif. C'est des métiers où on se doit d'assumer. Donc je suppose qu'aujourd'hui, c'est assez risqué d'assumer quelque chose et d'assumer sa petite personne. Donc c'est l'ambiguïté de ces métiers-là. Je veux dire, est-ce qu'on sauve des vies? Je pense que non. Est-ce que ça fait du bien dans la vie des autres?
Ah bah
je
oui,
pense que oui.
Ça oui, clairement.
Voilà, donc c'est un endroit où il faut... assumer ce qu'on dit, assumer ce qu'on pense et puis assumer une émotion, c'est pas si simple. Maintenant, c'est bien plus léger que la majorité des métiers où le risque est réel. Voilà. Là, c'est un risque différent, c'est un risque entre vous et vous. Bon, mais...
Bah, c'est, le risque, c'est quoi? C'est le risque de ne pas plaire, le risque de l'insuccès, non?
Oui, ou d'avoir... C'est compliqué, des métiers où on a pu toucher une forme de réalité ou une forme de magie, peut-être, on ne sait rien. On ne sait pas bien comment on l'a fait et si ça se trouve, ça ne reviendra jamais. Donc, c'est compliqué d'avancer dans cet inconnu-là. Est-ce qu'on sait le faire? Qu'est-ce que c'est qu'écrire une chanson? Je ne sais pas bien comment je le fais. Donc, effectivement, je n'ai aucune idée de si je vais pouvoir le faire de nouveau.
Vraiment, vous êtes en plein doute tout le temps, c'est la moindre des choses?
Oui, je pense que c'est pour ça que je fais ces métiers-là. Effectivement, Et puis, il y a l'idée d'apprendre toujours. Et c'est vrai que la chance Et vu que tout change tout le temps dans ces métiers-là, même en concert, chaque soir, c'est une salle différente, c'est un public différent, c'est une énergie différente des gens sur scène, mais des gens dans le public aussi. On crée le moment ensemble, c'est pour ça que j'aime tellement le live, c'est pour cette idée
oui,
que...
Oui, c'est l'ensemble. Voilà.
C'est ensemble, et puis aussi, c'est voué à disparaître. Alors que dans une époque où on est tellement dans un désir d'immortalité, de tout figer, et de tout garder, et de tout pouvoir remontrer, c'est pour ça que moi je m'en fous quand les gens filment un concert, parce que c'est sans intérêt. Ce qui a de l'intérêt, c'est le moment qu'on est en train de vivre ensemble. Mais le lendemain, ça aura disparu complètement.
On vient de passer le pont Neuf, le plus vieux pont de Paris. Ouais. La Samaritaine est au loin. La Seine, évidemment, toujours fera la gueule. Nous progressions dans Paris.
Et se dire qu'avant, il y avait des maisons sur ce pont.
Eh ouais.
Comme à Venise. Ça vivait sur ce pont. Il y avait des habitations de 2 à 3 étages.
Vous en savez des choses.
J'adore Paris. J'adore.
On avance vers notre prochain point. On ne va pas ménager le suspense. On va vers le musée d'Orsay.
Ouais.
Là, je ne vous promets pas de pouvoir faire ouvrir le musée d'Orsay pour nous. Mais bon, on ne sait jamais, il y a des miracles dans la vie.
On peut essayer de se faire virer encore une fois.
Ouais. On y prend goût. A tout de suite sur Europe 1. Nous progressons. Vous marchez vite là.
Oui, je suis une grande marcheuse.
Vous chaussez du combien?
Je chausse du 41, c'est pour ça que je vais plus vite.
C'est pour ça que j'ai du mal. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, en balade avec Lou Doyon, Pascal Clark.
Rebonjour ou si ça se trouve, bonjour tout court. Si vous avez manqué le début de la flèche d'or à la Library Shakespeare & Company, n'hésitez pas à la rattraper en replay sur europe1.fr. Balade en compagnie d'une auteure, compositrice, interprète, mais aussi mannequin, comédienne, dessinatrice, styliste. J'ai rien oublié là dans vos activités. Ouais. Nous sommes maintenant rendus quai Voltaire. Nous venons de passer le pont du Carrousel. Et c'est toujours un plaisir de longer les quais de la Seine. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez un peu fasciné par les affaires criminelles ou que ça vous... Hein ce moment où vous avez vu Christophe Ondelat au premier concert.
J'aime la résolution. Je pense, faisant plein de métiers irrésolvables, je pense que la résolution d'une enquête me rassure énormément.
Ah, mais je pensais que c'était la noirceur humaine, des choses comme ça, non?
Ça aussi, parce que on est plus singulier et plus drôle que ce qu'on arrive à imaginer. Et c'est vrai que les histoires d'êtres humains, notre côté obscur, en fait, est juste là. Donc je suppose que c'est ça qui me plaît, c'est l'idée que... Est-ce qu'on est tous capables? J'espère que non, mais pour sûr qu'on a tous un côté obscur.
D'une manière générale, vous avez foi en la nature humaine quand même ou il y a des choses désespérantes?
Je dirais que ce qui me plaît le plus, c'est l'être humain parce qu'il est désespéré en lui-même. Voilà, c'est une tragédie que d'être au monde. On nous demande quelque chose de... Voilà, j'espère effectivement que les animaux n'ont pas ce sentiment de leur propre mort. Si c'est ça qui nous habite, nous, je trouve ça très émouvant. Et tout ce qu'on fait découle de cette tragédie. Donc, savoir aimer alors qu'on perdra les gens, faire des enfants alors qu'on sait qu'on ne sera pas forcément là, ou inversement.
Arrêtez, c'est trop triste.
Non, mais je trouve que c'est ça qui fait que j'ai envie d'arrêter tous les gens dans la rue et les prendre dans les bras. Je préfère être sur une place de marché qu'en haut d'une montagne. C'est les humains qui m'intéressent.
Donc là, vous êtes malheureuse en ce moment parce que...
Ouais.
Hein,
ouais,
niveau moi, tactile, c'est limité. Hein.
Heureusement, j'habite pas loin d'un marché, alors je peux continuer à voir un peu et on arrive encore à se faire marrer sous le masque. Mais c'est vrai que je suis profondément émue, c'est le mot, par l'être humain. Et donc, ses côtés obscurs, sa petitesse, nos angoisses, nos jalousies, notre violence. Mais qu'est-ce que c'est émouvant? Quel mauvais deal? Et on l'accepte tous.
Ouais, pas trop le choix. C'est vrai que le deal de départ est un peu...
Le deal de départ est vraiment tordu.
Tordu. Il se trouve que vous avez fait les choses assez tôt dans votre vie. Bon, à 5 ans, vous avez tourné un film.
Oui.
Hein, ça reste un bon souvenir?
C'est un souvenir très
Agnès
inconscient.
Agnès Varda, quand même.
Ouais. Ouais. Ça, c'était merveilleux. Je me rends compte aujourd'hui que j'ai eu accès, enfin, à des gens exceptionnels et à beaucoup de femmes
Comment
d'exception.
Comment s'appelait, il m'échappe, le titre du film?
Kung Fu Master.
Et bien sûr, Kung Fu Master.
Mais c'est vrai que d'être entourée de femmes qui lâchaient pas, parce que vraiment, Agnès, si elle voulait quelque chose, elle lâchait pas, d'avoir cette forme de conviction, de force... et de rapport au travail fait qu'effectivement, c'est en grandissant que j'ai compris que la femme avait un statut différent que l'homme, finalement, dans la vie de tous les jours. Parce que dans ma petite enfance, les femmes qui m'entourent sont extrêmement libres et costauds. Donc c'est vrai que voilà, commencer avec Varda, c'est commencer avec quelqu'un qui est puissante.
Ouais. Vraiment, et puissante dans le travail aussi,
ouais,
dans la création.
Absolument, absolument. Et qui était au courant de tout. Quand je vois aujourd'hui les documentaires avec elle, avec Delphine Seyrig, enfin, quelle merveille que d'avoir eu ces femmes-là comme exemple.
En même temps, la barre est haut, du coup.
Ça là-dessus, je m'en suis rendu compte plus tard. Mais c'est vrai que... Et le point commun de tous ces gens-là, c'était une humilité absolument totale. Donc, moi, petite, c'est juste des amis de mes parents et c'est un peu des vieux schnocks. Donc, c'est à 15 ans que je vais comprendre que Michel, qui est un peu comme mon parrain et qui m'amuse à me jouer la Baba Yaga et à me réciter des Shakespeare, en fait, est Michel Piccoli et que ça a son importance. Mais c'est des gens terriblement modestes, tous. Donc, il n'y avait pas du tout un... Ça se voyait pas que c'était des gens à ce point-là, que c'était une élite de l'intelligence.
Et puis, vous avez été maman assez tôt aussi.
Oui, ouais, à 19 ans.
À 19 ans.
Ouais.
Et bon, c'est comme ça, mais en y repensant, c'est bien d'être une maman jeune. Est-ce que ça apporte quelque chose ?
C'est compliqué. Est-ce que c'est bien d'être une maman tout court ? Ça, j'en sais rien. Maman jeune, je sais pas trop non plus. Je dirais que pour moi, comme tu l'as dit, j'ai commencé tout assez vite. Donc à 19 ans, j'avais déjà vraiment vécu beaucoup. Donc, j'ai pas réfléchi, ça s'est passé. C'était très bien comme ça. Et puis, je pense qu'avec un métier où, bah, la preuve, là, où je parle beaucoup de moi, quand même, où je travaille sur moi, c'est très bien d'avoir quelque chose qui vous ramène à une réalité qui n'est pas de l'ordre de votre pomme. Voilà, un enfant, ça a besoin de vous. Et alors, vos états d'âme, franchement, ils s'en cognent un peu. Donc, c'était un très bon instinct que de me mettre tout de suite dans une immense responsabilité à 19 ans et et que l'impératif soit quelqu'un d'autre que moi.
On vient d'arriver, Loudoyon, devant le musée d'Orsay. Et là, c'est le moment d'écouter le troisième disque de la session. Et il y a une évidence, j'ai choisi Patti Smith.
Ouais.
Bah, d'abord parce que vous dessinez, vous avez fait 22 dessins à l'encre pour la réédition de ce livre merveilleux qui est Just Kids, ouais, de Patti Smith. J'hésite juste entre deux titres.
Alors, c'est quoi ?
Soit April Fool,
ouais,
soit
Pissing in a River.
Ouais, sans aucun doute.
Sans aucun doute.
Patti Smith sur Europe 1. Et voilà, tous ensemble, nous allons faire pipi dans la rivière. Eh, hey, oh,
hey,
pourquoi pas,
hey. Chiche.
Chiche. Patti Smith.
Europe 1, Pascal Clark se balade avec Lou Doyon.
Pissing in a river, watching it rise. Tattoo fingers, shall we? Voices mesmerize. Voices picking and seeing. empty, screening your soul. Oh, I'm walking, I keep you.
Smith sur Europe 1, n'est-ce pas que ça fait du bien? Bah d'écouter et puis tout le reste aussi. Pissing in a river. A tout de suite, on revient. Bougez pas. Enfin si, vous pouvez bouger, mais pas trop.
Pascal Clark, en balade avec Lou Doyon sur Europe 1.
Bonne nouvelle, finir cette balade dans un musée. Mauvaise nouvelle, le musée est fermé. Eh ben oui, forcément, le musée d'Orsay. Relativement récent hein, pour un musée, il est même plus jeune que vous, Lou Doyon.
Il est plus jeune que moi?
Ben ouais.
Il est de quand?
1986.
Waouh, je savais pas.
Hein?
C'était ouais. Quoi entre la gare et le musée?
Alors, il y a eu la gare pendant longtemps, la gare est devenue désaffectée, et c'est Valérie Giscard d'Estaing qui a décidé de faire de cet endroit un musée. Et peut-être bien que le musée s'appellera un de ces jours Musée d'Orsay Valéry Giscard d'Estaing, à moins que ce ne soit juste l'esplanade. Voilà. Commencez par redire que vous adorez les gares. Hein, on a commencé dans une gare désaffectée et on la termine dans une gare désaffectée. Pourquoi ?
Parce qu'il y a quelque chose qui... Déjà, les gares me plaisent énormément parce que c'est le voyage, parce que c'est le mystère aussi. C'est un endroit où... On vient, on repart, les gens se disent au revoir, on peut s'imaginer, voilà, les couples qui se font, qui se défont.
Ça peut être très triste une gare aussi. Hein.
Ça peut être très triste et c'est toujours louche. Les gens qui habitent autour des gares vous disent toujours que c'est vraiment louche. C'est une ville dans une ville, une gare. Oui, et l'idée du voyage, de toute façon.
Et où on prend son temps, quand même. Hein. C'est pas l'avion.
Il y a une forme de... Oui, il y a un plaisir d'être au ralenti, un peu. Et surtout, voilà, ce mystère, les valises, ouais, quand on est assis dans ces merveilleux compartiments à 6, comme il y a encore dans certains trains.
Trains de nuit qui reviennent.
J'adorais ça. Et on s'imagine, on se demande qui sont les gens assis à côté de nous, c'est quoi leur vie. On voit le bouquin, on voit la valise, on essaye peut-être mon côté Sherlock Holmes, on essaye d'imaginer d'où viennent les gens, où est-ce qu'ils vont.
On sent l'odeur du pâté.
Oui. L'anonymat, il y a un anonymat étrange. J'adore les gars. Ouais.
Bon, l'important se situe quand même à l'intérieur hein, de ce musée d'Orsay. La plus importante collection de peintures impressionnistes et postes au monde. Vos grâces personnelles, parce que vous y êtes allé souvent, j'imagine.
Ouais. Moi, il y a un plaisir du... J'aime beaucoup les impressionnistes et j'aime beaucoup le... Vu que j'ai eu la chance pendant 6 mois de faire un peu d'histoire de l'art, de me rendre compte à quel point c'était vraiment les premiers punks... voilà, ma génération, on a du mal à comprendre, mais que le joueur de fifre, finalement, c'est scandaleux parce qu'il n'y a pas de décor autour, parce qu'il n'y a que lui, parce qu'il y a un aplat de gris. Mais là même avec Rodin, que le scandale est de retirer les socles, ce qui fait qu'en fait, on a le droit de juger ces sculptures parce qu'on a la même taille et que jusqu'alors, il y avait des socles en dessous, le fait de signer sa peinture, ce qui était effectivement très récent.
Oui, mais là, on est dans l'analyse.
Oui,
on est dans l'analyse.
Mais déjà la beauté en elle-même, et puis des choses, mon scandale préféré est quand même le tableau de Courbet, l'origine du monde
qui se trouve à l'intérieur.
Exactement. Ah. Et ce qui est fou, c'est de se dire que c'est pas le tableau, enfin le tableau est scandaleux, mais ce qui est scandaleux, c'est le titre du tableau. Parce qu'en fait, c'est la guerre à cette époque-là, est-ce qu'on descend du religieux ou non, et au bout d'un moment, Courbet met fin à la question de d'où est-ce qu'on vient, en disant mais voilà, on vient de là en fait. Et ça, c'est toujours un plaisir de voir les trois petits vieux se rapprocher du tableau et d'être derrière et de regarder en disant « mais c'est quand même merveilleux ». Les enfants sont scandalisés, les ados deviennent rouges. Enfin, c'est vraiment drôle de se dire que si longtemps plus tard, et j'aime beaucoup Courbet, donc effectivement, il y a des grands tableaux de Courbet qui sont merveilleux, comme ceux qui, j'ai oublié le titre, ceux qui rabotent, je crois que ça s'appelle les raboteurs, où ils sont en train de refaire un parquet. Enfin, c'est je pense que c'est ma période préférée.
Alors, vous et le dessin?
Ouais.
Je ne fais pas un parallèle, mais il se trouve que vous dessinez beaucoup et vous dessinez bien. On parlait tout à l'heure du Jazz Kids avec vos dessins à l'encre. Est-ce que dans cet exercice-là, il y a une espèce d'immédiateté, d'évidence? On se prend, enfin, faut y aller, quoi, le dessin, non?
C'est ça. Il y a quelques. Alors après, rebelote, ça dépend des gens. Moi, effectivement, je dessine comme ça. Il n'y a pas d'esquisse et puis c'est à l'encre, ce qui fait que ça ne s'efface pas. Voilà, on est obligé de suivre. Et c'est un peu comme un funambule, c'est un seul trait. Mais quand je travaille en musique, j'ai l'impression de faire la même chose. C'est-à-dire que je travaille beaucoup avec le silence et en dessin, je travaille beaucoup avec le vide. J'aime bien justement le fait que ça aille pas forcément jusqu'au bout. Je suppose que c'est pour ça que les impressionnistes me plaisent, dans cette idée d'un coup d'être obsédé par quelque chose et de s'en foutre de ce qui se passe autour, ou d'une idée de l'ébauche, ou d'une idée de l'arrêt. J'adore Egon Schiele aussi pour la même raison. Ça s'arrête, en fait. On sait pas pourquoi. Il y a quelque chose en suspens qui me plaît beaucoup. Et après, c'est vrai que dans des métiers où je suis très souvent observée, de dramatiquement changer le curseur pour être celle qui observe est quelque chose de très nourrissant et de merveilleux. On est au service de la ligne qu'il y a en face de nous. C'est peut-être le moment où je réfléchis le moins. C'est-à-dire que je ne fais qu'observer. Et cette observation, sachant qu'en plus, j'aime notre regard parce qu'il est biaisé, donc c'est pour ça que je travaille pas à partir de photos, j'aime travailler à partir de la vie, parce que tout est une illusion d'optique, tout est un point de vue, et même la manière dont on regarde quelque chose. Dans la vie, je fais le point sur vos yeux, ce qui fait que derrière c'est flou. Il y a que au cinéma aujourd'hui qu'on peut avoir
l'inverse.
Le point. Ou l'inverse. Ce qui fait un peu chier dans les films d'aujourd'hui, c'est qu'il y a le point partout. Alors que moi j'aimais bien justement les années 40-50 où on va choisir où on met le point.
Et la photo pareil.
Exactement.
Exactement. La profondeur de champ.
Ouais. Exactement.
Voilà, nous allons dans un instant entamer la dernière séquence de cette balade. Nous voyons, on va mettre le paquet. Hein.
On va tout faire.
Ouais. On est en même temps, tout est à disposition. Nous sommes donc au musée d'Orsay et il y a la Seine qui va peut-être déborder pendant qu'on est là. Moi, j'aimerais bien. Ça fera un petit happening. À tout de suite sur Europe 1.
Pascal Clark se balade avec Lou Doyon sur Europe 1.
Une balade très parisienne touche à sa fin, populaire, bohème, littéraire, avec une scène bien ballonnée. Lou Doyon, on termine en mode super pouvoir.
Super pouvoir ?
Ouais, tout est possible. Alors, vous changez quelque chose à cette ville, Paris, que vous adorez là. Que changez-vous en priorité ?
En priorité, quitte à m'attirer des courroux absolument immenses, je lisais un texte très très beau de Louise de Villemorin qui expliquait que quand elle était plus jeune, c'est un texte qu'elle a écrit dans les années 50, les voitures étaient rangées dans des garages à Paris, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de voitures visibles. Et elle disait que la rue appartenait aux passants et que c'était terrible, toutes ces carcasses vides. Et elle disait, moi c'est beau, elle disait que c'était pour elle des petits cimetières qui attendaient d'être en vie et qu'on ne devrait pas les voir. Alors effectivement, je suis assez d'accord. Moi, j'aimerais bien voir Paris sans voiture, mais dans le sens voiture planquée. C'est-à-dire que la rue nous appartienne de nouveau.
Ça, je suis d'accord. Ouais. Chine la pétition. Une idole, quelqu'un que vous admirez, disons morte ou vivante, peu importe, accepte de poser nue pour vous. Qui est-ce ?
Il faudrait un corps qui m'intrigue. qui poserait nu pour moi.
Si ça vient pas en de côté, hein.
Non, je pense. Alors, ça peut être un peu tordu, mais j'assume. Parce qu'il m'a toujours plu et que des photos d'archives que j'ai trouvées, il aimait beaucoup se foutre à poil, donc je pense que ça ne le gênerait pas. Toulouse-Lautrec.
Ah oui. Alors, j'ai pas instantanément la tête, ni encore moins le corps de Toulouse-Lautrec, mais on vous croit sur parole. Un endroit un peu fou pour fêter votre prochain anniversaire.
Bah pour le coup, une gare.
Ah bah oui.
Ouais, avec un anniversaire dans une gare, ce serait bien.
Ce serait très bien.
Bah moi, j'ai toujours passé le nouvel an à la station Bonne Nouvelle et personne ne me suit jamais. Je suis très intéressée par une commune qui s'appelle Tourouvre, ce que je trouve un bon omen aussi. Alors là, où est-ce que je ferai mon anniversaire? Non, bah, moi, c'est le 4 septembre. Alors peut-être à la gare de la station de métro 4 septembre.
Ouais. Voilà. Vous pouvez changer quelque chose dans votre physique.
Un front. J'aimerais bien un front.
Bah vous n'en avez pas?
Non. Ah. C'est pour ça que j'ai une frange.
Vous avez porté plainte ou?
Oui, surtout que mon père petit disait que c'était un signe de non-intelligence.
Oh, bah. Vous êtes sentie soutenue, hein, tout de suite. Un artiste pour reprendre un de vos morceaux. Mais tout est permis, là. Tout est possible.
Tout est permis.
Tout est exaucé.
Jim Morrison, qui reprenne ma chanson Burn.
Bah vous avez raison, il faut y aller. Un dimanche idéal, ingrédient.
Un dimanche idéal, j'étais assez capable de les faire, mais là, ça fait longtemps que c'est se réveiller assez tard, prendre un petit déj assez énorme à l'anglaise, un énorme brunch, ce qui me permet de tenir et de cuisiner toute la journée pour le soir faire mon dîner du dimanche soir. Avec mon dîner familial, avec toute ma famille amie. Et donc, voilà, ça me manque. Ça me manque. Normalement, je suis celle qui fait à bouffer pour tout le monde le dimanche soir et j'adore ça.
Il y a Christophe Ondelat ou pas?
Ah non. Non, non. Il y a Arthur Nosiciel très souvent, normalement, presque tous les dimanches, mais c'est le bon jour parce qu'on n'a pas théâtre le lundi, on n'a pas de spectacle le lundi. Et puis on n'aime pas beaucoup forcément les lundis matins et là ça permet d'avoir commencé le lundi matin chez moi.
Et que cuisinez-vous?
Des choses très grasses qui tiennent au corps. Ouais. Ben, mon père est un peu français mais il est surtout alsacien en fait. Il est alsaco et ma mère est anglaise donc vous imaginez bien que j'ai un rapport au saindoux qui est assez particulier et puis à la choucroute, aux plats cuisinés pendant très longtemps. Donc ma recette pour laquelle je suis reconnue chez mes amis, peut-être pour cause d'indigestion, je ne sais pas. C'est une tourte de fromage et de bacon. Donc il faut faire la pâte avec à moitié du saindoux, à moitié du beurre. Après, dans le fond, vous mettez des patates que vous avez déjà bouillies. Ensuite, dessus, vous mettez un mélange de bacon et d'oignon que vous avez fait revenir. Là-dessus, vous mettez plein de cheddar. Là-dessus, vous mettez une crème qui est comme de la crème fraîche, mais plus épaisse, qui s'appelle la double crème. Et là, vous refermez encore avec une, avec une couche de pâte. Et à côté, vous mangez une salade verte, sinon vous vous étouffez. Voilà.
Ah oui, c'est ça.
C'est ma recette du dimanche.
Enfin, un vœu pour 2021. Un vœu qui sera évidemment exaucé.
J'ai cru un vœu.
Non, un vœu, c'est le masque, pardon. Il commence à coller
vœu,
un peu.
Un vœu pour 2021. Que tout rouvre. Que tout rouvre.
Exaucé. Merci beaucoup pour la balade, Lou Doyon. Ça va, vous ne serez pas en retard. Tout va
non,
bien,
c'est parfait.
L'album, le mini-album Look at Me Now, ouais. Trois titres, voilà. Et puis le livre, la réédition du livre de Patti Smith, Just Kids, avec vos dessins. Merci à vous, en balade avec et réalisé
Merci.
Par Boris Paczynski, que je vais voir de ce pas. Ça va, Boris?
Très bien, c'est un très bon moment.
C'est vrai? Ah, tant mieux. Preneur de son, je vais le voir aussi, Julien Or. Ça va, Julien?
J'ai passé un très bon moment, je te remercie.
Alors là, tu dis comme Boris.
J'ai aucune originalité, je fais que prendre du son.
Ok, merci à toi. Programmation Marjorie Adelson. Eh bien, la balade avec revient dimanche prochain, 11h sur Europe 1. Avec vous, on l'espère. Bonne journée à vous. Portez-vous bien.